Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. La bataille pour la présidence de la Commission européenne débute ce soir à Bruxelles. Emmanuel Macron et Angela Merkel ne défendent pas les mêmes candidats. Les explications de notre correspondante Angélique Boin dans un instant. La Commission de Bruxelles qui menace de sanctionner les dérapages budgétaires de l'Italie. Le chef populiste italien Matteo Salvini veut au contraire s'affranchir des critères européens. Olivier Tosseri nous appellera de Rome. 4 ans après avoir racheté la branche énergie d'Alstom, General Electric annonce plus d'un million de suppression d'emplois. Le site de Belfort est le plus touché. Le maire de Belfort, Damien Meslot, est l'invité de ce journal. Le président du Sénat, Gérard Larcher, veut rassembler la droite et le centre. Une initiative qui fragilise un peu plus le patron de LR, Laurent Wauquiez, déjà ébranlé par l'échec de la liste Bellamy. Nous verrons cela avec Stéphane Robert. 48 heures après les élections européennes, le bras de fer a débuté à Bruxelles. Les 28 chefs d'État et de gouvernement discutent ce soir des postes à pourvoir au sein de l'exécutif européen. Le menu principal du dîner, c'est bien sûr la présidence de la Commission européenne. Angélique Boin, bonsoir.
Bonsoir.
En direct de Bruxelles, Angélique, la succession de Jean-Claude Juncker qui donne lieu à un premier affrontement entre Emmanuel Macron et Angela Merkel.
Oui, Emmanuel Macron a cherché en fait une bonne partie de la journée ce soir à se placer au centre du jeu dans le cadre de cette refondation de l'Union européenne des 5 prochaines années qu'il appelle de ses voeux et au risque en effet de se heurter à plusieurs capitales dont Berlin sur ce choix absolument crucial du poste de président de la Commission. Contrairement à son habitude, le président français a été l'un des premiers à arriver ici dans le vaste bâtiment du Conseil 3 heures avant le début du dîner. Il a consulté à tout va depuis la veille au soir pour tenter de convaincre ses homologues de la nécessité de se positionner contre ce système du Spitze candidat défendu par le Parlement et qui voudrait que le chef de file du parti arrivé en tête aux élections devienne automatiquement le président de la Commission. L'Allemand Manfred Weber, patron de la droite européenne, s'estime le plus légitime. Il est soutenu par la chancelière allemande pour certaines capitales, mais surtout pour le Parlement, ne pas respecter ce principe présenté comme le plus démocratique et dangereux politiquement. Alors le dîner vient de se terminer, mais Emmanuel Macron ne s'est pas encore exprimé. Angela Merkel, qui vient de partir, qui est encore en conférence de presse, pardon, annonce qu'elle souhaite que le nom soit connu avant le prochain Conseil européen qui aura lieu les 20 et 21 juin. D'ici là, on en saura plus sur la constitution des groupes au Parlement, sur le rapport de force et on aura sans doute plus de visibilité sur le candidat et le projet en fait défendu pour les 5 ans à venir pour la future Commission. Ce candidat est important, mais c'est le projet qui va avec qui est encore plus important.
Angélique Boin en direct de Bruxelles. Merci. La Commission européenne qui s'apprête à sanctionner l'Italie. Bruxelles reproche au gouvernement populiste italien de laisser filer son déficit budgétaire, alors qu'il faudrait au contraire réduire la dette publique. Ces fameux critères européens sont contestés par Matteo Salvini. L'homme fort du gouvernement italien reste sur un triomphe électoral. Son parti, la Ligue, a remporté les élections européennes en Italie avec plus de 34% des suffrages. Olivier Tosseri nous appelle de Rome.
Il n'y a pas que les dérapages verbaux de Matteo Salvini qui suscitent la crainte de la Commission européenne. Il y a surtout ce budgétaire de son gouvernement. Bruxelles s'apprête à envoyer une lettre de rappel à l'ordre à Rome. Elle menace d'ouvrir une procédure d'infraction pour déficit excessif qui coûterait 3,5 milliards d'euros à l'Italie. Une procédure qui serait lancée la semaine prochaine lors de ses recommandations annuelles. Il faut dire que Rome ne respecte pas les engagements pris. Son déficit public devait être cette année de 2,04% du PIB. Il sera de 2,5% et de 3,5% l'an prochain. Quant à la dette publique, elle explose à 133,7% du PIB. De quoi susciter des craintes sur la stabilité financière de la troisième économie européenne et de la zone euro dans son ensemble. Mais Matteo Salvini a déjà fait savoir qu'il ne voulait plus de l'austérité, qu'il refusait de respecter les critères budgétaires imposés par les banquiers et par les eurocrates. Un nouveau bras de fer s'annonce entre Rome et Bruxelles ces prochaines semaines.
Le coup est rude pour l'emploi industriel en France. General Electric annonce plus d'un millier de suppressions de postes dans ses usines françaises. Il s'agit de l'ancienne branche énergie d'Alstom, rachetée par le groupe américain en 2015. Le site historique de Belfort est la première victime de ces suppressions d'emplois. Les élus locaux et les syndicats avaient à plusieurs reprises alerté le gouvernement sur l'imminence de ce plan, Annabelle Grelier.
Il s'en doutait, mais c'est pire que ce qu'il craignait. 1044 suppressions de postes, c'est l'activité turbine à gaz qui est touchée. Elle perdrait 792 emplois sur les sites franc-comtois de Belfort et Bourgogne, quand le site de Boulogne-Billancourt serait amputé de 250 postes administratifs. Départ volontaire, reclassement ou licenciement sec, aucune précision n'a encore été donnée par la direction. De mauvaises stratégies en mauvais paris dans l'immobilier et la finance, le groupe va mal, il doit se restructurer. Pourtant, en 2015, Emmanuel Macron, alors ministre de l'économie, prévoyait un bel avenir à Belfort en soutenant le rachat de la branche énergie d'Alstom par General Electric. Le groupe américain l'avait emporté face à Siemens en promettant la création de 1000 emplois en France. Non seulement il ne les a pas créés, mais il licencie aujourd'hui dans sa filière de turbines à gaz pour centrales thermiques, soumis à une baisse des commandes mondiales depuis que les énergies renouvelables sont devenues compétitives. General Electric a déjà versé 50 millions d'euros de pénalités, comme le prévoyait le contrat avec l'État, rassure Bercy. 50 millions d'euros aujourd'hui sur un fonds qui devront servir à revitaliser la région. Parmi les pistes évoquées, le développement des filières liées à l'aéronautique, un centre de test de piles à combustible ou encore le recyclage de composants nucléaires. Des pistes qui pour le moment n'existent que sur le papier.
Annabelle Grelier, merci. Invité de ce journal, le maire Les Républicains de Belfort, Damien Meslot, bonsoir.
Bonsoir.
Damien Meslot, est-ce que vous avez l'impression ce soir d'avoir été lâché par un General Electric ?
Ben, si vous voulez, lorsque la partie énergie d'Alstom a été vendue à General Electric, le ministre de l'économie de l'époque, un certain Emmanuel Macron, était venu nous dire tout le bien qu'il pensait de cet accord et nous dire que cet accord permettrait un bel avenir industriel pour le site de Belfort, qu'il serait toujours à nos côtés pour aider au développement du site, aujourd'hui, alors que son conseiller de l'époque, M. Hugues Bellet, se trouve à la tête de General Electric France, nous ne manquerons pas de lui rappeler ses obligations et de lui demander d'intervenir fortement pour trouver des solutions industrielles suite à ce plan social.
Justement, le ministre de l'économie, Bruno Le Maire, s'engage à préserver l'avenir industriel de Belfort. Ce soutien du gouvernement est suffisant selon vous ?
Écoutez, nous avons rencontré Bruno Le Maire, nous avons des pistes en matière d'aéronautique, en matière de nucléaire, en matière d'hydrogène. Nous avons déjà beaucoup discuté avec Bruno Le Maire à Bercy. Maintenant, il y a eu de belles paroles. Nous attendons des actes et nous jugerons sur les actes. Nous avons besoin d'avoir l'implantation d'activités industrielles nouvelles. Nous pensons à l'aéronautique sur Belfort. Si ces activités industrielles sont implantées sur Belfort suite à la pression du gouvernement, nous le dirons. Mais si rien ne se fait, nous ne manquerons pas aussi de nous manifester auprès du gouvernement qui avait pris des engagements très fermes devant les salariés de General Electric et devant les élus de Belfort.
L'argument invoqué, c'est la chute du marché des turbines à gaz. Est-ce que vous comprenez cet argument ?
Écoutez, il y a effectivement un recul du marché des turbines à gaz, mais le marché existe toujours et General Electric a produit un livre blanc dans lequel General Electric prévoit une reprise du marché. Donc il y aurait eu peut-être d'autres solutions que le plan social et il y a la suppression de près de 200 emplois dans la comptabilité, dans ce qu'on appelle Global Ops, et ces activités ne dépendent pas du marché du gaz. En vérité, c'est plus une décision financière pour faire remonter le cours de l'action qu'une décision industrielle. Donc je pense qu'il y avait d'autres solutions et je ne peux pas me satisfaire de ce plan social.
Vous considérez que General Electric a sacrifié peut-être Belfort sur l'autel de la rentabilité financière du groupe ?
Je le pense effectivement. Je pense que ces 1000 suppressions d'emplois à Belfort sont destinées à rassurer les actionnaires et à faire remonter le cours de l'action, mais en aucun cas à des décisions industrielles. Et je regrette ces décisions qui ne me semblent pas conformes à l'intérêt des salariés de Belfort et même de General Electric, parce que la production des turbines à gaz est l'activité qui était la plus rentable pour General Electric. Donc il faut se souvenir que c'est grâce à cette activité que General Electric a réalisé de très beaux bénéfices au cours des années antérieures.
Est-ce que vous diriez qu'il aurait mieux valu qu'Alstom reste une entreprise française ?
À l'époque, nous avions fait part au gouvernement de notre inquiétude de le voir ne pas conserver les 21% de capital que Nicolas Sarkozy avait fait acquérir par l'État au sein d'Alstom, et nous avions souligné auprès de l'État le risque qu'il y avait de laisser les centres de décision s'implanter uniquement aux États-Unis. Aujourd'hui, avec le recul, nous pensons que nous n'avions pas tout à fait tort. Mais vous voyez, ce dossier est symptomatique de l'absence de politique industrielle en France. On réagit au coup par coup et on n'a plus une vision sur le moyen et long terme de notre politique industrielle, ce qui aboutit à ces plans sociaux à répétition. Si nous avions une vraie politique industrielle, nous aurions gardé Alstom avec sa partie énergie et sa partie transport, et je pense que nous n'aurions pas connu toutes les déconvenues que nous connaissons actuellement.
Et Alstom est un élément essentiel d'une vraie politique industrielle française ?
Ben, tout à fait. Alstom, c'était nos centrales nucléaires, notre indépendance énergétique, c'est le TGV. D'ailleurs, il y a 3 ans, on voulait nous fermer le site Alstom de Belfort. Nous nous sommes battus. Nous avons obtenu son maintien. Et aujourd'hui, ce site a un carnet de commandes qui est plein et il réembauche. Et ironie de l'histoire, le ministre de l'économie dit qu'il pourra reclasser un certain nombre des salariés licenciés de General Electric au sein d'Alstom Transport, alors que les hauts fonctionnaires de Bercy proposaient avec la direction d'Alstom de fermer ce site il y a 3 ans. Comme quoi, vous voyez, il faut une vraie politique industrielle si on veut que nos salariés qui travaillent dans l'industrie aient encore un avenir dans ce pays.
Damien Meslot, maire Les Républicains de Belfort, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Le repreneur de l'ex-usine Whirlpool d'Amiens est en redressement judiciaire. L'entreprise WN de l'industriel picard Nicolas Decailleux est dans une impasse de trésorerie, pour reprendre les termes de la préfecture de la Somme. Il n'y a pas de débouché suffisant pour ses produits. Il y a un an, WN avait repris 162 des 282 salariés du site amiénois de Whirlpool. Une question dans l'actualité politique ce soir. Laurent Wauquiez a-t-il encore les soutiens nécessaires pour se maintenir à la présidence du parti Les Républicains ? En tout cas, il s'accroche malgré le revers historique de la liste Bellamy aux européennes. Laurent Wauquiez garde le parti, mais Gérard Larcher entend s'affranchir du cadre partisan pour rassembler la droite et le centre, Stéphane Robert.
Oui, parce que derrière la question du maintien de Laurent Wauquiez à la tête de Les Républicains, il y a la question de la ligne politique qu'il a imposée depuis 2 ans. Ligne qui a consisté à se situer dans une opposition systématique au pouvoir en place et à Emmanuel Macron, ce qui dès lors l'a conduit à récupérer un certain nombre de thèmes portés par le Rassemblement National. Et le résultat, c'est ce score de 8,5% aux européennes, signe que l'électorat de Les Républicains a été siphonné d'un côté par le Rassemblement National et de l'autre par La République En Marche. Aujourd'hui, LR est donc réduit à un parti croupion comme le Parti Socialiste, d'où cette initiative lancée par le président du Sénat, Gérard Larcher, ce matin sur France Info.
Je vais proposer au président de groupe parlementaire, au président des 3 grandes associations d'élus, département, président de région, président des maires, que nous nous retrouvions pour analyser la situation et engager une démarche pour reconstruire un projet qui rassemble la droite et le centre, au-delà des partis politiques. Et il n'y a aucun piège pour les formations politiques, que je respecte. Je crois que les formations politiques, même si elles ont peu la confiance des Français, elles sont néanmoins indispensables à l'expression de la démocratie.
Mais il faut les dépasser aujourd'hui.
Mais je pense que on va au-delà, ce qui n'exclut pas le rôle que peuvent jouer les uns et les autres dans leur formation politique, y compris moi-même.
Cette démarche consiste évidemment à contourner Laurent Wauquiez, qui n'a aucunement l'intention de s'en aller, et puis à sortir de la logique partisane, étant donné que les partis politiques sont démonétisés, qu'ils n'ont plus la confiance des électeurs. Le problème est qu'il y a sans doute aujourd'hui une quête de sens, alors que les partis politiques ne semblent plus être que des machines à sélectionner des candidats pour les élections. Et la question est de savoir si ça a encore un sens pour une majorité de la population française de se revendiquer de la droite et du centre, ou à contrario de se dire de gauche. Les motivations qui ont conduit les électeurs à voter dimanche dernier, soit dans un réflexe de vote utile, soit en faveur des écologistes, semblent dire le contraire. Dès lors, il est à craindre que cette initiative de Gérard Larcher soit perçue comme une tentative un peu vaine de sauver ce qui peut encore l'être de la part d'élus qui ne veulent pas céder la place.
Stéphane Robert, merci. On ajoutera que les cofondateurs du parti Agir appellent solennellement les élus de droite et du centre à les rejoindre. Agir regroupe d'anciens élus LR qui ont choisi de soutenir Emmanuel Macron. Le parti est aujourd'hui présidé par le ministre de la Culture, Franck Riester. Le temps demain sera moins agité qu'aujourd'hui avec le retour de belles éclaircies, mais le ciel restera pluvieux sur le nord-ouest ainsi que sur les Alpes, le Massif central et les Pyrénées. Le matin, les températures varieront entre 5 et 15 degrés du nord à la Méditerranée. L'après-midi, le thermomètre évoluera entre 15 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Nathalie Lopez.